votre émission Les 50 nuances d'amour avec Delphine. Donc voilà, ce sera juste après le jingle que vous allez entendre tout de suite. C'est parti.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé.
Soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde sa douceur et sa beauté.
Encore des mots. Toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais
je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Bonsoir tout le monde. Alors bienvenue dans cet épisode 13 de la saison 2 de 50 nuances d'amour. J'espère que vous allez bien. Ça pique dehors, ça pique un maximum. Ce soir il fait moins 5 cette nuit. Ouh, ça va être incroyable. Donc on est dans les bonnes températures là pour les fêtes. C'est juste parfait. Merci pour ce mois de décembre très froid et avec de la neige dans nos montagnes. C'est juste magique pour ce temps de décembre et ce Noël qui arrive. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, donc, aujourd'hui, j'ai personne en face de moi. Donc, comme d'habitude, je vous passe des capsules, des interviews, des témoignages. Là, on va changer un petit peu par rapport aux émissions précédentes. C'est-à-dire que généralement, j'ai trois capsules, voire des fois quatre capsules à vous présenter pendant l'heure d'émission. Là, aujourd'hui, je vais avoir deux grosses capsules. Voilà, on va avoir une première partie d'émission avec une capsule. On fera une petite pause, soit musicale, soit un petit intermède d'humour. Et ensuite, on repartira avec la deuxième grande capsule. Et vous allez voir, les deux sont liés. C'est très important, c'est très intéressant d'écouter l'une et ensuite d'aller écouter la deuxième. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que la première va servir un petit peu de témoignage. Vu que j'ai personne en face de moi, eh bien, écoutez, je suis allé chercher un témoignage sur Internet par le biais d'une émission qui s'appelle « On de la raconte ». Ondelatte raconte, c'est Ondelatte, alors je ne sais plus quel est son prénom, donc c'est Monsieur Ondelatte qui explique et qui raconte des histoires souvent de meurtres, d'homicides, etc. Donc voilà, la nature humaine dans son œuvre, rien de surprenant. Là, pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce qu'en fait, c'est très en lien et vous allez voir, vous allez écouter. Bon, je l'ai raccourci hein, parce que normalement ça durait 40 minutes, donc je l'ai quand même raccourci. J'en ai extrait les moments les plus intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'une relation amoureuse qui part en cacahuète. Et en fait, il le rattache, quand il en parle, Ondelatte et les personnes qui interviennent, le rattache à l'enfance qu'ont eue les personnes. C'est-à-dire qu'ils font le parallèle entre ce qu'ils ont reçu, ce que les protagonistes, donc le couple, et puis voir l'autre personne extérieure, donc ce qu'ils ont vécu potentiellement dans leur enfance et ce qui a fait les hommes et les femmes qu'ils sont devenus et ce qui a créé le couple et la problématique au sein du couple. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est au cœur de l'émission, c'est-à-dire le couple, comment on fonctionne. Et souvent, je vous fais un petit rappel de dire l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui est en lien, très en lien avec l'enfant que vous avez été, ce que vos parents vous ont donné, ce que la société vous a donné, ce qu'on vous a donné à voir de qui vous êtes, comment on vous a défini, comment on a défini l'autre, comment on vous a défini le monde, est-ce qu'on vous a sécurisé, est-ce que vous avez eu peur de l'autre, est-ce que vous avez été critiqué, est-ce que vous avez été valorisé, etc. et vous devenez un homme et une femme et vous évoluez dans votre corps, vous grandissez, vous devenez une femme sexy, vous devenez un homme sexy, on s'en fout. Bref, vous avez le corps que vous avez, mais vous avez un corps d'adulte, mais vous êtes potentiellement encore à l'intérieur de vous des enfants effrayés, en manque de confiance en eux, en manque d'estime. Et vous allez former un couple avec cette histoire d'enfant que vous trimballez dans votre corps d'adulte. Et vous allez vous accrocher à l'autre avec des problèmes d'attachement, notamment en lien avec cette enfance. Donc ça va être la première partie de l'émission. Ça va servir de témoignage. Et la deuxième partie extraordinaire, c'est une femme qui est extraordinaire, que j'ai suivie sur Internet depuis un certain temps, qui est au Canada, qui s'appelle Cyrine Benamou. Et qui va nous parler des neurosciences et du fonctionnement du cerveau et du lien avec les blessures qu'on a enfant et comment notre cerveau, au travers des blessures qu'on a enfant, grandit, devient un cerveau d'adulte. Mais ce cerveau d'adulte, si on n'a pas fait un travail de réparation, de développement personnel, d'unification, de pacification avec notre histoire d'enfance, comment ce cerveau d'adulte réagit encore avec ses blessures d'enfant. Donc c'est une émission hyper intéressante. Voilà, j'en dis pas plus, je lance la première capsule, On de la te raconte, et l'histoire c'est Jean-Pierre Vidal, et on se retrouve après.
On de la te raconte, Christophe On de la te.
En 2018, dans l'Ariège, Jean-Paul Vidal tue à coups de barre de fer Christophe Orsas, l'ex de sa compagne. Et dans la foulée, il abat au fusil de chasse sa fille de 18 ans, Célia. Il a assisté au meurtre, il ne veut pas de témoin. Face aux gendarmes, Jean-Paul Vidal prétend qu'il a agi sous influence de sa chérie. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Jean-Paul Vidal.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 30 novembre 2018, près de Bélesta, en Ariège, Christophe Orsaz, qui est paysagiste, a rendez-vous chez un couple pour un devis. Il emmène avec lui sa fille de 18 ans, Célia, avec laquelle il vient de renouer après des années de fâcherie. Mais quand il arrive au rendez-vous, Christophe se retrouve face à son ex, Marie-Josée, et surtout face au nouveau compagnon de celle-ci, Jean-Paul Vidal. Il comprend qu'il est tombé dans un piège. Jean-Paul Vidal est né le 24 juin 1970. Il a 48 ans. Monsieur Vidal a eu 3 enfants de 2 mariages. Monsieur Vidal se qualifie comme quelqu'un de non-violent, n'ayant jamais eu par le passé de démêlés judiciaires ni de problèmes relationnels. Sa dernière épouse décrira Monsieur Vidal comme attentionné, calme, posé, conciliant et sans addiction. Elle nous dit: il est gentil, il n'a jamais un mot plus haut que l'autre, il n'est jamais là pour embêter.
Monsieur Vidal, avant les faits, on pourrait avoir tendance à dire que c'est Monsieur Tout-le-Monde. Eh bien, non, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde.
Maître Mathieu Montfort, avocat de Jean-Paul Vidal.
Monsieur Vidal, dans la région, si vous êtes embourbé, si vous êtes coincé, etc., ben lui, il a tout ce qu'il faut dans la voiture pour vous sortir du fossé. Votre voiture est coincée à cause de la neige, mais il a une pelle, il a ce qu'il faut pour vous sortir. Voilà. Monsieur Vidal, vous avez un problème, vous l'appelez, il vient vous aider. Voilà. C'est un individu, et on l'a vu dans le cadre de l'enquête de personnalité et autres, on n'a pas trouvé une personne pour dire du mal de lui. C'est une personne qui a la reconnaissance de toutes les personnes qui ont croisé son chemin, employeur, famille et autres.
Monsieur Vidal, comment est-ce que vous vivez votre détention ? C'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait. C'est impardonnable. Je me dégoûte. Mais comment est-ce que j'ai pu les tuer ? Comment ? Monsieur, je suis là pour essayer de comprendre avec vous. Mais d'abord, parlons de votre enfance. Comment s'est-elle déroulée ? Mon enfance. Elle n'est que douleur, monsieur.
On est face à un homme qui, effectivement, a un très 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 lourd passif. Son enfance est entourée de tabous, est entourée, selon lui, de secrets.
Alain Penin, expert psychologue.
Il est placé en 72, en 73. Son père est incarcéré pour des infractions financières. Et finalement, son enfance ne lui laisse, et je le cite, que de mauvais souvenirs. Donc, il a un profond sentiment abandonnique, il a un profond sentiment de rejet, il est placé chez des religieuses et il a un souvenir tout à fait affreux de ce placement. Il aurait été d'ailleurs l'objet de maltraitance dans ce placement. Me confie, j'appelais toutes les femmes maman, elle n'était pas ma mère. Voilà. Alors, donc, il va retourner en famille vers 1974, et là, il va rencontrer un personnage paternel taiseux, un travailleur, pas violent, mais il ne lui montre aucun signe d'affection. Et par contre, sa mère, quelqu'un de très, elle ne lui donne pas tout ce que les enfants sont en droit d'attendre d'un personnage maternel qui est censé entourer l'enfant de sécurisation sur le plan psychique et évidemment d'affection. Donc, il a eu une mère, mais une mère qui n'a pas rempli son rôle. Il va également parler de la personnalité de cette mère qui avait, selon lui, une vie sentimentale en dehors du père. Donc, c'est peut dire que il a, par rapport à ce que l'on appelle les images parentales, des choses assez floues d'une part, mais assez négatives surtout d'autre part. Ce qui vient à l'idée, évidemment, c'est que les relations qu'il va entretenir avec ses compagnes, ses partenaires, ses amoureuses vont être parfaitement colorées par ces éléments carentiels par rapport au personnage maternel.
Code P22. Expertise psychologique d'Alain Penin. Jean-Paul Vidal se marie une première fois avec une étudiante de 22 ans. Au bout de 6 ans, il divorce. Jean-Paul Vidal explique qu'il n'était pas du même monde. Il décrit son épouse comme pète sec et dans l'apparence. Le concernant, il dit « Moi, je suis simple, j'ai connu la misère. Elle, c'est une famille prétentieuse. »
Quand il va rencontrer une personne qui va lui donner de l'affection, qui va lui faire confiance, les experts diront qu'il est, qu'il voue presque une dévotion finalement à l'autre, qu'il va se retrouver dans une situation où il va être incapable presque de discerner ce que l'autre va dire. C'est incapable de penser qu'elle peut lui mentir. Donc en fait, il est en vase clos, il est complètement dévoué à la personne qui va remplir finalement cette carence affective. Les experts diront même qu'il y a presque une incapacité à apprécier la réalité de l'environnement qui l'entoure. C'est comme s'il était aveuglé, comme s'il avait des œillères. La difficulté qu'on a, c'est que c'est facile à dire et c'est rapide à dire, et le mécanisme est un peu plus complexe que l'apparence.
Code B42. Enquête de personnalité de Géraldine Rochefort. Monsieur Vidal a rapporté avoir eu une relation extra-conjugale avec Madame Montesinos Marie-Josée, qu'il connaissait depuis 2009, avec laquelle il a eu une première aventure en 2009-2010, puis en 2012, et enfin à nouveau en mai 2017.
Oh, la relation avec Marie-Josée Montesinos n'est pas du tout facile, c'est loin d'être l'enfeuve tranquille.
Alain Penin, expert psychologue.
Il va petit à petit indiquer qu'il fait sa connaissance, mais par le biais de la cascade. D'ailleurs, il monte des spectacles et effectivement, et il rencontre cette jeune femme sympa, pétillante, attirante, charmante. Voilà, il était à l'époque marié avec Nathalie, hein, donc voilà, ça marchait plus ou moins bien avec Nathalie parce que il lui reprochait finalement un défaut de tendresse, un défaut en tout cas de manifestation de tendresse. Et puis petit à petit, il rencontre ce personnage, Marie-Josée Montesinos, et petit à petit, il dit ben je me mets à penser à elle, je suis attiré, je la rejoins, je vais boire un café, et puis on a échangé un baiser. Et puis, alors qu'il travaillait à Foix, il va me dire, entre midi et deux, je mangeais avec elle, et hop, on a eu une relation sexuelle. Mais c'est resté une relation cachée. Donc, dans un premier temps, finalement, c'est sa maîtresse. Hein, donc. Mais cette relation est compliquée, parce que Jean-Paul Vidal culpabilise. Il sentait qu'il avait du sentiment pour elle, mais il sentait son défaut de loyauté par rapport à son épouse. Et effectivement, ce qui s'est passé, ce qui devait arriver, arriva. Il y a eu un arrêt de cette relation lorsque son épouse a appris ce qui se passait. Il y a eu une interruption de 5 années de cette relation. Et puis quand il la retrouve, il dit, ben, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Donc, il y a eu effectivement cette reprise du lien amoureux très fort.
La particularité de cette relation-là, c'est qu'on a l'impression que Madame Montesinos, en fait, va faire comme une serrure d'une porte et s'adapte parfaitement à la clé que représente Monsieur Vidal.
Maître Mathieu Montfort, avocat de Jean-Paul Vidal.
C'est-à-dire que toutes les particularités de la personnalité de Monsieur Vidal, finalement, elle va les connaître et elle s'y adapte parfaitement. Elle lui donne ce qu'il a besoin. Et quand vous donnez à Monsieur Vidal ce qu'il a besoin, lui vous donne tout. Et il s'abandonne à, en quelque sorte complètement à la personne qui va combler ses carences, finalement. Et ça lui fait perdre un petit peu le... pas le sens des réalités, mais il se pose plus de questions, en fait. Il écoute, et puis finalement, c'est tout. Il perd un peu du sens critique, il va se faire manipuler, on le sait par la suite. Mais c'est cette approche, finalement, cette manière de compléter et d'apporter à quelqu'un qui a ces carences-là, qui va permettre à Madame Montesinos et à Monsieur Vidal d'écrire leur histoire, et j'ai envie de dire, qui va, quelque part, annihiler la raison de Monsieur Vidal. On a l'impression, au moment où je le rencontre, qu'il y a encore cette emprise, cette dévotion pour Marie-Josée Montesinos. Il a du mal à s'en dépêtrer, quoi. C'était encore très prégnant dans les propos qu'il pouvait avoir, où on avait presque l'impression qu'il tentait de la protéger encore.
Vous savez, maître, si on avait tendu ce qui est tapant à l'ex de Marie-Josée, c'est parce que c'était pas un bon mec, Christophe. Elle m'avait dit qu'il l'insultait. C'était un pervers narcissique, que c'était un dangereux. Elle m'avait même confié qu'il la battait.
On présente cet homme comme quelqu'un de violent, un ancien légionnaire, qui lui piquait de l'argent, qui lui piquait du pognon, dit-elle. Et puis, elle va lui envoyer des messages où tout tourne autour de Christophe. Et voilà, il se compare à lui, et il se demande comment un tel homme peut exister.
Pour M. Vidal, il est impossible qu'elle puisse lui mentir. Il est complètement incapable de penser qu'elle peut lui mentir. Tout ce qu'elle va dire est la vérité. Il ne se pose pas de questions. Des exemples dans le dossier, il y en a à foison. On pourrait citer un retour à l'aéroport où elle va lui envoyer un message en lui disant « Devine qui c'est qu'à l'aéroport », en laissant penser que c'est Monsieur Orsaz. Et Monsieur Vidal croit dur comme fer au point où il propose de venir. Tout simplement, les lettres, bien entendu, qu'elle va s'écrire à elle-même en faisant croire que c'est Monsieur Orsaz qui lui envoie, il n'en doute pas une seconde. Quand elle dit qu'elle est suivie, il n'en doute pas une seconde. Quand elle dit « Regarde, mon appartement, tout est saccagé, ils sont venus, ils m'ont menacé », il n'en doute pas une seconde. Pareil, il y a eu une menace de viol par 6 individus qui avaient arrêté un véhicule au milieu de la route, il y croit dur comme fer. Il se pose pas la question de savoir, mais c'est quand même beaucoup... Non, il n'y a aucun doute. Pour lui, c'est la réalité, elle ne peut pas mentir. C'est la stricte vérité. Donc, petit à petit, cette oppression, cette présence de M. Orsaz dans leur relation, elle naît, elle se développe et elle devient anxiogène.
Puis, finalement... Les choses se compliquent dans la mesure où il reçoit des menaces. Il y a des allusions à sa propre famille, à ses enfants, et là, il se met à avoir très peur. Pour moi, la famille, on ne touche pas, dit-il. Et donc, lorsqu'il y a ce qu'il appelle des piqûres de rappel, c'est là où les choses se mettent en place et où ça devient impossible à supporter pour lui.
Ce qui va commencer à faire bouger Monsieur Vidal, c'est quand les lettres vont commencer à lui être destinées. Quand elles vont parler de sa femme, il va se sentir petit à petit traqué. Il dira même « Je ne savais pas qu'un tel homme pouvait exister » par rapport à ce que Madame Montesinos lui en disait. Et c'est, ça paraît, quand on le répète, « Je ne savais pas comment un tel homme pouvait exister », ça veut bien dire ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire qu'il y croit, mais dur comme fer, à tout ce qu'elle peut raconter. J'ai presque envie de vous dire, c'est l'autoroute de la manipulation. C'est pas le tunnel de la manipulation. C'est l'autoroute qui est constituée à la fois par la capacité à combler les carences affectives, qui permet d'accélérer la chose sur les ressentiments qu'on peut avoir sur M. Orsaz. Mais comme les simples ressentiments ne fonctionnent pas, on aggrave, on alimente jusqu'au point de rupture, finalement, qui est... menacer de manière plus ou moins indirecte les enfants de M. Vidal, et ça c'est un élément dont Mme Montesinos est parfaitement au courant puisqu'elle le connaît parfaitement bien, M. Vidal. Elle connaît son enfance, elle connaît l'importance qu'a ses enfants à ses yeux, et elle sait que ça, finalement, pour être un petit peu vulgaire, ça va le faire dégoupiller. Et c'est ce qui va le faire dégoupiller.
C'est l'être où Christophe parlait de ma femme, de mes enfants. C'était trop. Je me suis dit que ce gars-là était dangereux. Marie-Josée avait donc raison. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je lui donne une bonne correction. Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Et ma Marie-Josée, elle a eu l'idée d'acheter des nouveaux téléphones pour pas qu'on soit identifié. Et ainsi, on a pu tout préparer. On a appelé Christophe en lui disant qu'on avait un chantier à lui proposer. Et il est venu au rendez-vous. Mais jamais vous n'avez compris que tout cela était faux. Christophe jamais n'avait écrit ces lettres de menace sur vous. C'était elle. C'était Marie-Josée Montesinos qui vous montait la tête. Non. Non, bon, on devait lui faire peur. Il devenait menaçant.
Il ne parle pas véritablement d'emprise dans un premier temps, mais il a quand même des phrases qui sont assez significatives. Il va me dire, par exemple, « Elle a tout prévu, et moi, j'ai exécuté. » Donc on voit bien qu'il se présente comme le bras armé, finalement, de la décision de Marie-Josée. C'est comme ça qu'il montre à quel point, finalement, il a été manipulé. Il parle d'une culpabilité effroyable. Ce sont ses propres mots. Il parle d'une incompréhension et il parle de dégoût. Donc, lui, ce qu'il ressent, c'est finalement une tristesse majeure. Et finalement, moi, dans mes conclusions, j'alerte sur l'état de tristesse et de dépression qu'il traverse au moment où je l'examine. On est en mai 2019. Il a des idées suicidaires. Et d'ailleurs, il me dit « Je n'aurai pas mes enfants, il y a longtemps que j'aurai mis fin à mes jours. »
L'enquête sur le double assassinat de Christophe Orsaz et de sa fille Célia se poursuit. Devant la juge d'instruction, Jean-Paul Vidal persiste et signe « Il n'a jamais voulu les tuer ». Et il accuse sa compagne, Marie-Josée Montesinos, d'être à l'origine de toute cette histoire. D'après lui, ce serait une grande manipulatrice et c'est elle qui lui aurait monté la tête.
Je rencontre une femme qui est très calme, qui accepte de participer à l'enquête de personnalité, mais qui reste sur un registre très factuel, qui se décrit peu.
Gaëlle Caro-Alfort, enquêtrice de personnalité.
Elle peut dire d'elle qu'elle reste en retrait, elle peut donner quelques qualificatifs sur elle-même, mais qui sont assez rares, hein, comme voilà le fait qu'elle soit en retrait, qu'elle est maniaque. Mais c'est quelqu'un qui dévoue peu d'émotions, qui est très calme et qui manifeste peu d'affect. La manière dont elle est dépeinte par l'entourage, c'est en relief en fonction de qui j'ai en face. Et lorsqu'on va vers ses compagnons, là le portrait est tout autre, c'est-à-dire que décrivent une personne qui est manipulatrice, qui fait preuve d'une jalousie démesurée, qui a une intelligence perverse même, et qui était très difficile à supporter et à gérer dans le quotidien.
Code B36, enquête de personnalité de Gaëlle Caro-Alfort. Un ex-compagnon de Madame Montesinos se remémore cette relation qu'il compare à un enfer. Il nous dit « Je me souviens du moment de notre rupture. Une demi-heure après l'avoir quitté, j'ai été cambriolé. On m'a pris tous mes bijoux, tout mon argent, toute la recette de la semaine de mon commerce. Et il fallait savoir où c'était caché. »
Dans ce qui est dit, effectivement, quitter Marie-Josée Montesinos, ça paraît être très souffrant pour elle, et suivi de faits qui pourraient, selon son ex-compagnon, celui-ci, lui être reprochés. Et ce qui viendrait dire que pour Marie-Josée Montesinos, tolérer la rupture, c'est pas possible. Et ça ravive une douleur narcissique très vive et qu'elle ne sait pas gérer. Et donc ça passe par la destruction de celui qui est à l'origine de cette souffrance.
Code B36, enquête de personnalité de Gaëlle Caro-Alfort. La relation entre Christophe Orsaz et Marie-Josée Montesinos apparaît comme ayant été très vite démarrée, puis ayant été passionnelle et fusionnelle. Ce dernier, fortement idéalisé initialement, a de nouveau fini par être décevant, notamment eu égard aux représentations que Madame Montesinos pouvait se faire de l'homme au foyer et auquel il ne correspondait pas.
Donc ça engendre chez elle des états de frustration. Ses attentes ne sont pas comblées. Et de nouveau, elle nourrit des sentiments ambivalents d'amour, de haine, de désir, de dégoût. Et elle ne peut se séparer sereinement, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une juste distance avec l'autre, que ce soit avec ses compagnons, mais ça se retrouve aussi avec sa fille, avec laquelle elle est très fusionnelle, avec sa nièce, avec laquelle elle est trop fusionnelle. Il y en a même qui disent que c'est un gourou vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de cette nièce. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas se séparer sereinement parce qu'elle ne sait pas être en relation sereine et dans la juste distance. Donc, les ruptures peuvent se comprendre comme un arrachement pour elle. C'est quelque chose qu'elle gère mal.
Vous savez, Madame la juge, mais Jean-Paul en parlait de tout. Hein. Je lui avais dit que mon ex, Christophe, me faisait vivre l'enfer. Il me faisait peur. Et Jean-Paul, il avait rallié ma cause. Et donc, on avait décidé de donner une leçon à Christophe. Mais ça devait être juste une raclée.
Cette hypothèse-là, à mon sens, ne tient pas une seconde, puisqu'à partir du moment où vous achetez des téléphones dits jetables, des téléphones TOC, c'est que la personne n'est pas censée revenir. Ce que va dire, ce que va expliquer Monsieur Vidal, c'est que le projet, il est au départ, au tout départ, au premier achat du téléphone, parce qu'il y a un premier téléphone, il est effectivement de mettre une correction. Mais juste après, c'est le projet est un projet criminel, c'est de tuer. Mais on part pas avec l'idée ce matin-là qu'on va tuer un homme. Non, c'est des étapes. Et chez Monsieur Vidal, il a toujours eu la dynamique de se dire oui, on part pour tuer, mais je pensais pas qu'on irait jusqu'au bout. Le projet est le projet de tuer. Et ça fait un petit peu comme un escalier où vous montez étape par étape, marche par marche, vers ce que vous savez très bien être la dernière marche, c'est-à-dire la mort. Mais Monsieur Vidal pensait à chaque fois que mais là, on va se faire surprendre. Là, il viendra pas. Voilà. Il pensait que ça allait réellement pas se passer. Mais en fait, tout s'est passé finalement comme c'était prévu, malheureusement.
J'ai appelé Christophe sous une fausse identité et je lui ai proposé un chantier. Quand il est arrivé au rancard, on s'est bagarré. Mais je faisais pas le poids, alors j'ai saisi une barre de fer que j'avais amenée. Je l'ai frappée. Marie-Josée était cachée. Dès que je le maîtrisais, elle l'a frappée aussi. Elle disait, c'est pour ce que tu m'as fait. Il est mort sous les coups. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait sa fille dans la voiture. C'était pas prévu, ça. Alors on l'a kidnappé, on l'a mise dans le coffre. roulé. Et puis on a décidé qu'il fallait pas laisser de témoin. Je me suis dit, je peux pas faire ça. C'était une folie. Et puis finalement, j'ai pris le fusil de chasse. J'ai tiré un coup dans sa tête. On a caché le corps de la petite sous les branches. Celui de Christophe, on l'a mis dans une fosse septique. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos écopent de la même peine. 30 ans de réclusion criminelle. Ils acceptent le verdict. Ils ne font pas appel.
Voilà. Voilà pour l'histoire de Jean-Paul Vidal. Donc vous avez vu, hein, il y a souvent au début beaucoup, par rapport à Jean-Paul Vidal, des références à son histoire, son enfance et le manque de mère. Il n'avait pas de figure maternelle d'attachement. Voilà. Donc il avait une carence à ce niveau-là. Ce qui veut dire que potentiellement, les femmes qu'il a rencontrées ensuite, il était prêt à tout leur donner pour avoir l'amour d'une femme qui représentait dans son inconscient l'amour de la mère qu'il n'a pas reçu enfant en étant placé et sa mère n'étant pas là. Donc ça lui a créé une dépendance à ces femmes, et notamment à cette dernière qui a réussi à le manipuler, et qui, elle, avait des problèmes d'attachement et des problèmes au niveau de l'abandon. Et donc, quand quelqu'un se séparait d'elle, elle vivait ça comme un abandon, et elle avait besoin d'aller abîmer l'autre et lui faire mal, parce qu'elle, elle souffrait, et en fait, elle le rendait responsable de cette souffrance, alors que c'est une blessure d'abandon qui est certainement à l'origine dans son enfance, où elle a dû se sentir abandonnée par son père, etc. Et donc, c'en est arrivé au moment où elle a voulu tuer son ancien compagnon qui l'avait abandonné. Et elle s'est servie de cet homme-là, Jean-Paul Vidal, qui lui était tellement follement amoureux et avait tellement besoin de reconnaissance de sa part à elle, qu'il a été prêt à tuer un homme pour pouvoir satisfaire cette femme-là. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, beaucoup de choses viennent de notre enfance. Et en tant qu'adulte, on peut faire de grosses erreurs, entre guillemets, et on parle même au-delà de l'erreur, mais on peut faire des choses terrifiantes par rapport à ces blessures d'enfance. Donc, on se fait une petite pause musicale et puis on se retrouve après pour lancer la deuxième partie de l'émission.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne mordrons au même fruit, ne dormirons au même lit, ne referons les mêmes gestes. S'enfuir notre bonheur et du reste désormais les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais nous changerons nos habitudes et ces mots que je croyais l'autre dans d'autres bras. Désormais, je garderai ma porte close. Désormais, enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. Sans fruit.
Voilà, jolie, magnifique chanson d'amour. Alors, à savoir qu'en ce moment au cinéma, je ne sais pas si vous êtes informés, parce que donc c'était Charles Aznavour avec la chanson Désormais. Et il y a actuellement un film qui retrace ses débuts dans la chanson, qui est juste absolument divin, qui s'appelle Monsieur Aznavour. Donc si vous avez l'occasion et l'envie d'aller faire un tour au cinéma actuellement, c'est vraiment à ne pas rater. Génial, vraiment superbe film. Ok, donc on va partir sur la deuxième partie d'émission. Donc Cyrine Benhamou, qui est une neurologue, une scientifique neurologue et psychiatre, enfin voilà, je ne sais plus exactement, psychiatre, psychologue, neurologue, etc. Voilà, elle a toutes ses casquettes, mais je ne sais plus les titres exacts. Et en tout cas, elle est hyper pointue dans le domaine des neurosciences. Et là, en fait, le sujet de cette capsule, elle parle effectivement des blessures d'enfance et comment ils agissent sur notre cerveau d'adulte. Voilà, donc ouvrez bien vos écoutilles et puis je vous dis à tout à l'heure.
Je suis Cyrine Benhamou, je suis docteur en neurosciences et thérapeute. Aujourd'hui, je voudrais vous dire ou vous expliquer pourquoi vous devez absolument vous intéresser à vos blessures d'enfance. Vous disant cela, je suis tout à fait consciente que vous n'en avez peut-être pas envie, et pour d'excellentes raisons. Vous savez, quand des personnes viennent me voir, dans le cas de mon accompagnement, les personnes viennent me voir souvent parce que soit elles ont des problèmes de santé physique, des somatisations pour lesquelles la médecine est impuissante, ou ces personnes qui viennent me voir ont des difficultés relationnelles, ou des difficultés voilà, à s'accomplir dans l'un ou l'autre domaine de leur vie, à trouver leur vocation, à vivre une vie qui a du sens, voire même à développer une aisance financière qui leur permet de vivre et non pas d'être juste en un mode de survie. Donc, quand une personne vient me voir, c'est avant tout pour faire face à des enjeux actuels. Et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de retourner dans le passé, et d'ailleurs ce n'est pas vraiment ça que je demande. Mais je veux faire une nuance ici, et vous allez comprendre si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, pourquoi vous devez tenir compte absolument des blessures de votre enfance. Ce n'est ni pour vous lamenter sur le passé, ni pour ramener sur le tapis des blessures anciennes, et là aussi, souvent, je peux bien comprendre qu'on n'ait pas envie de vivre deux fois la blessure, c'est-à-dire une fois parce qu'on l'a vécue au moment des faits, et une deuxième fois en réactivant, en racontant ou en repensant même à ce qui s'est passé. Alors, comprenez bien ici que le but ce n'est pas de revenir sur le passé, mais bien de comprendre la nature de la connexion entre ces blessures d'enfance et les difficultés actuelles. Parce que souvent et trop souvent, je vois qu'il n'y a pas de compréhension de ce lien de cause à effet entre des blessures d'enfance qui peuvent être très précoces et des difficultés récurrentes à l'âge adulte. Alors sur le plan des statistiques et de l'observation empirique de cette connexion, je pense que la connexion est établie depuis très longtemps. Ce qui est beaucoup plus récent, et là je me base vraiment sur des publications très récentes, enfin là je fais cette vidéo en 2017, les études dont je vous parle ont été publiées en 2016, et ça continue d'être publié régulièrement, donc voici les références si vous voulez aller plus loin. Mais donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui nous avons une compréhension du mécanisme neurobiologique qui fait que ces blessures d'enfance ont un impact, continuent d'avoir un impact à l'âge adulte. Mais la nuance aussi que je veux faire, c'est qu'il n'y a pas un lien de fatalité, de cause à effet absolu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir vécu de terribles choses pendant l'enfance et qui néanmoins, à l'âge adulte, sont des personnes épanouies, accomplies, résilientes. Par contre, les personnes qui vivent des difficultés récurrentes à l'âge adulte ont intérêt à comprendre ce lien qualitatif qu'il peut y avoir avec leurs blessures d'enfance pour être en mesure de faire des choix pertinents et éclairés pour récupérer une capacité de vivre pleinement dans le présent, de s'accomplir, de s'épanouir dans la joie, dans la santé surtout. Et c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Donc restez avec moi parce que je vais vous présenter un certain nombre de résultats d'études pour vous permettre de comprendre ce que vous avez intérêt à faire et ce que vous n'avez pas besoin de faire. Alors, une première chose que je voudrais vous dire, lorsque je parle de blessures d'enfance, j'ai utilisé au départ un terme plus générique, mais si on veut être beaucoup plus spécifique, je vous dirais ici qu'il s'agit de deux sortes de blessures, si on veut. D'une part, des maltraitances, et d'autre part, la négligence. Et c'est vraiment intéressant d'ailleurs de savoir que la maltraitance et la négligence vont avoir le même type d'impact. On a souvent tendance à croire que la maltraitance va être plus sévère dans ses conséquences que la négligence. Eh bien, c'est faux. Donc, pour vous expliquer un petit peu, lorsque j'utilise le terme de maltraitance, cela désigne des formes plus actives d'abus, de violences verbales ou de violences physiques, voire d'abus sexuels. Le fait d'avoir été témoin aussi de violences domestiques peut avoir le même impact que de les avoir subies directement. Donc un enfant qui a vu un frère ou une sœur ou une maman ou un papa subir des violences va en souffrir autant que si ça lui était arrivé. Lorsqu'on parle de négligence, il s'agit d'une forme plus passive, évidemment, dans laquelle les besoins vraiment de soins, de manger, boire, être bien vêtu, être protégé du froid, d'avoir un toit sur la tête, etc., d'être en sécurité, donc ce genre de besoins-là, mais aussi les besoins émotionnels et affectifs de l'enfant, qui sont tout aussi importants. J'ai eu une personne que j'ai accompagnée qui m'avait dit « J'ai eu une mère, je n'ai pas eu de maman. » Elle m'a dit « J'avais une mère impeccable. » Elle m'a dit « J'étais toujours très bien nourrie, très bien vêtue, très bien soignée, j'avais de belles fournitures scolaires, j'étais toujours en sécurité, j'étais vraiment, même peut-être surprotégée, mais en tout cas très bien soignée sur le plan des besoins physiques, physiologiques. » Par contre, elle estimait qu'elle n'avait pas eu de maman, parce que la qualité relationnelle était froide. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de communication vivante, d'intérêt pour les besoins de l'enfant. Et ça, c'est une forme de négligence qui a aussi des conséquences négatives qui peuvent être durables. Alors, de quelle manière est-ce que la maltraitance et la négligence peuvent continuer d'avoir un impact à l'âge adulte? C'est parce que la maltraitance et la négligence vont affecter des structures et des fonctions de certaines aires cérébrales pendant des phases critiques de développement. Et que donc le cerveau est structuré, configuré de sorte à maintenir un rapport, une perception de soi-même et du monde qui reste conditionnée par ces événements précoces. Donc pour être plus spécifique, ces aires cérébrales concernent en particulier notre réactivité au stress, notre perception de nous-mêmes, donc l'identité, la formation de l'identité profonde, mais aussi la perception du monde, l'émotivité, les choix d'action qui vont être faits. Et donc de continuer d'opérer à l'âge adulte avec le même mode, avec la même structure, c'est ce qui fait que l'on vit de manière récurrente des difficultés, des obstacles qui ont été conditionnés par cet environnement précoce. Alors, il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que une personne a vécu de la maltraitance ou de la négligence qu'elle va forcément être un adulte en difficulté. Parce qu'il y a des personnes extrêmement résilientes. Par contre, les personnes qui sont en difficulté de manière récurrente à l'âge adulte ont intérêt à comprendre ce lien avec leur enfance pour pouvoir faire les choix nécessaires pour transformer cette structure cérébrale, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si je vous montre un dessin, donc ici c'est une coupe du cerveau selon un plan médian. Donc c'est comme si je tranchais mon cerveau ici au milieu et que je vous montre le côté droit de mon cerveau à partir de l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est l'avant du cerveau. Là, c'est l'arrière, le haut et le bas, à partir de l'intérieur. Donc vous voyez la partie externe, superficielle, enfin plus externe, c'est tout ce qui est les zones corticales. Et ce qui est en couleur, ce sont les zones du cerveau qui sont affectées par la maltraitance et la négligence. Et vous avez notamment le cortex cingulaire antérieur, qui est la partie bleue qui est à l'interface un petit peu entre le système limbique et le cortex. Et donc, le cortex cingulaire antérieur est impliqué dans l'émotivité, dans nos réactions affectives, dans les interactions sociales, dans la manière de s'autoréguler. Et donc, si son développement se met en place dans des conditions difficiles de maltraitance ou de négligence, eh bien, il peut y avoir un biais perceptuel d'hostilité du monde. Évidemment, il ne s'agit pas uniquement du cortex cingulaire antérieur. Le système limbique, notamment l'amygdale, qui est donc notre détecteur de danger, qui peut, en cas de stress précoce intense, engendrer une hyper-réactivité au stress. Et donc, à l'âge adulte, la personne va être beaucoup plus sujette à des états de stress, d'anxiété, d'hypervigilance, parce que l'amygdale serait configurée pour réagir de manière anticipative à des conditions de l'environnement qui permettraient de détecter ou de prédire la possibilité d'un danger ou de difficultés relationnelles. Vous avez aussi une structure qui est importante et qui est affectée par la maltraitance et la négligence, c'est le striatum. Et là, on parle vraiment de zones du cerveau qui déterminent des fonctionnements plus inconscients. Donc, qui déterminent des croyances, des attentes par rapport au futur, par rapport à nos résultats d'action, et donc qui déterminent des motivations, des choix d'action, qui sont des automatismes basés sur une appréhension, une représentation du monde, déterminée par la maltraitance ou la négligence. Donc vous voyez que, je ne vais pas vous détailler tous les détails anatomiques et fonctionnels, je voulais vous donner quelques exemples pour que vous voyez que c'est vraiment la configuration de ces structures et de leurs fonctions surtout qui font que il y a des filtres de perception qui se répercutent sur d'abord un état intérieur de stress beaucoup plus élevé et ensuite des choix déterminés par des attentes négatives en quelque sorte, ou des attentes basées sur un passé. Et ces études dont je vous parle sont des études en imagerie cérébrale qui permettent donc de faire le lien entre des altérations de ces zones du cerveau et les conséquences sur la qualité de vie à l'âge adulte. Alors justement, parlant de conséquences, je voulais vous montrer quelques chiffres. Si je vous montre ici, donc j'ai pris, c'est un graphique, et chaque barre bleue représente 100 personnes. Donc vous voyez les chiffres sur l'axe des ordonnées, oui. Donc le chiffre 100 représente 100 personnes. Donc pour 100 personnes qui souffrent de dépression, pour 100 personnes qui sont prises avec l'alcoolisme, pour 100 personnes suicidaires, pour 100 personnes qui font usage ou qui abusent de drogue, pour 100 personnes qui vivent de la violence domestique, subie ou perpétrée, combien de personnes sur 100 sont affectées par ces troubles ou ces difficultés à cause de maltraitance ou de négligence pendant l'enfance? Et donc, si on regarde les chiffres, vous allez voir que pour ce qui est de la dépression, c'est une personne sur deux. Donc 50% de cas de dépression à l'âge adulte sont liés à de la maltraitance ou de la négligence pendant l'enfance. Si on parle d'alcoolisme, les deux tiers des cas d'alcoolisme sont liés à la maltraitance ou à la négligence pendant l'enfance. Pour ce qui est des suicides, de l'usage de drogue et des violences domestiques, les 3/4 des personnes qui en souffrent parce qu'elles ont vécu pendant l'enfance de la maltraitance ou de la négligence. Et encore une fois, toutes les personnes qui ont vécu, qui ont subi de la maltraitance ou de la négligence ne développent pas nécessairement ces troubles, et heureusement, ces personnes-là sont suffisamment résilientes pour être en mesure de transformer ces épreuves en croissance post-traumatique. Par contre, ce que ces chiffres montrent, c'est que s'il nous était possible d'éliminer la maltraitance et la négligence des enfants, eh bien voici à quoi ressembleraient les chiffres. Au lieu d'avoir 100 personnes qui souffrent de dépression, il n'y en aurait plus que 50. Donc il y aurait une personne sur deux actuellement dépressive qui ne le serait plus. 2/3 des alcooliques ne seraient tout simplement pas alcooliques, et les 3/4 des personnes suicidaires qui souffrent d'addiction ou de violence domestique ne seraient pas concernées. Donc en fait, l'immense majorité de ces troubles et de ces difficultés serait abolie tout simplement si la maltraitance et la négligence durant l'enfance étaient éliminées. Et comprenez que je n'ai absolument pas envie, et je n'ai pas du tout l'intention de blâmer les parents. Parce que les parents qui font subir, entre guillemets, de la maltraitance ou de la négligence à leur enfant, le font la plupart du temps inconsciemment ou du moins involontairement. Ces parents-là sont eux-mêmes en souffrance et en détresse. Ils n'ont simplement pas eu les moyens et la capacité d'être de meilleurs parents. Donc l'idée ici, c'est de pas blâmer les parents, mais de vous faire comprendre qu'il y a un lien au niveau du système nerveux entre le développement du cerveau, la manière dont le cerveau est configuré, et la perception de soi et du monde à l'âge adulte. On peut encore souvent, malheureusement, entendre même des professionnels de la santé dire à leurs patients arrêtez de ruminer le passé, passez à autre chose, pensez au présent. C'est méconnaître l'impact de ces problématiques d'enfance sur la structure du cerveau de l'adulte. Donc ces personnes en souffrance sont victimes de leur structure neurobiologique avant tout. C'est pas de la mauvaise volonté que de se plaindre de son passé ou de continuer de vivre les mêmes échecs récurrents. Donc ne négligez pas de prendre en compte des événements qui peuvent dater de 10, 20, 30 ans, parce qu'il est très possible qu'il y ait une corrélation ou un lien de cause à effet, surtout si ces événements se sont produits pendant une phase critique de votre développement. Bon, je pense que j'ai assez insisté sur ce point, et vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais au début qu'il faut absolument vous occuper et vous préoccuper de vos blessures d'enfance. Non pas pour blâmer vos parents ou les personnes qui vous ont élevé, puisque cette maltraitance et cette négligence, de toute façon, la plupart du temps, étaient involontaires ou inconscientes. Mais ce qui est important, c'est de savoir les traces qu'ont peut-être laissé ces expériences au niveau de votre cerveau, au niveau donc de votre mode de fonctionnement, inconscient et involontaire. Ce qui fait que si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, mais qui sont des problèmes récurrents pendant votre vie adulte, la solution ce n'est pas de s'acharner et de s'obstiner à vouloir faire plus de la même chose. La solution n'est pas non plus d'abandonner, mais de vous donner les moyens avant tout de transformer cette structure cérébrale. Et là de nouveau, je vais citer à nouveau ces psychiatres, mais je pointe vers là parce qu'en fait les articles sont juste ici à mes pieds. Et donc le psychiatre ici, je vous cite Bessel van der Kolk, et je vous traduis un petit peu ce qui conclut à la fin de l'article, c'est que le plus grand défi, que ce soit en psychiatrie ou en termes de santé mentale, donc notre plus grand défi, nous individuellement, c'est d'utiliser la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la cette propriété du système nerveux de pouvoir toujours se modifier par l'expérience. Pas par la volonté, mais par l'expérience. Le cerveau apprend du vécu. Donc, le plus grand défi est d'utiliser la neuroplasticité pour réorganiser nos circuits cérébraux défectueux. Et cela passe par la rééducation, par vivre des expériences correctives, donc qui vont corriger ce biais structurel et fonctionnel, qui vont réentraîner le cerveau. Ça peut être par des outils plus technologiques comme le neurofeedback ou des pratiques totalement gratuites et naturelles comme la méditation. Le résultat et le but recherché étant de se réinsérer pleinement dans une vie qui a du goût, qui a du sens, avec des liens sociaux, dans le partage, la connexion, la coopération, la co-création. Parce qu'il faut savoir que ces structures cérébrales qui sont altérées par les expériences de maltraitance et de négligence sont aussi les mêmes structures qui sont transformées par la pratique de la méditation de pleine conscience, par exemple, par le yoga, par le trauma release exercises, dont je vous ai parlé à d'autres occasions. Donc cette propriété de neuroplasticité du cerveau, c'est notre plus beau don de résilience, parce qu'il permet de transformer encore et encore ces structures pour les adapter à notre vie actuelle, à notre niveau de développement actuel. Mais pour ce faire, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire de vivre des expériences différentes. Donc, des approches, des démarches, qu'elles soient thérapeutiques, spirituelles, existentielles, peu importe, mais des mises en action, des expériences de vie. Réorganiser son cerveau, c'est pas un processus mental, là, c'est pas en essayant de forcer vos neurones à se connecter autrement qu'ils vont le faire. Il y a des méthodes de méditation très puissantes, mais là, on parle d'autre chose. Écoutez, je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui.
Voilà. Effectivement, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, elle s'appelle Cyrine Benhamou. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle a plein de capsules comme ça. C'est une touche positive. On se termine sur une touche positive, effectivement, parce que la neuroplasticité, effectivement, notre cerveau, dans ses schémas neuronaux, ses schémas de réaction, de réponse à des stimuli, ça se forme très tôt dans l'enfance. Et après, effectivement, ces schémas neuronaux de réaction, de réponse à des stimuli, quand on dit stimuli, c'est une personne qui nous parle ou une situation qui se présente à nous, c'est des stimuli. Et on a des schémas neuronaux préférentiels qui se sont formés pendant l'enfance, et on les utilise encore à l'âge adulte. Et c'est là où elle fait le parallèle entre les blessures de l'enfance, les stress dus aux négligences, les peurs, etc., la culpabilité. Tout ça a engendré des schémas neuronaux de réponse pendant l'enfance à ces situations. Et notre cerveau, on grandit dans notre corps, mais notre cerveau, il continue à réemprunter encore et encore, jour après jour, mois après mois et année après année, ces schémas neuronaux préétablis pendant l'enfance, mais qui, à l'âge adulte, nous pénalisent, parce qu'on n'a plus envie de réagir de la même manière. On est des adultes, on pourrait entrevoir les choses différemment. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, on a découvert la neuroplasticité du cerveau. Vous pouvez reprogrammer ces schémas neuronaux. Vous pouvez... alors, elle explique la méditation, il y a le travail de développement personnel avec des thérapeutes, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a l'EMDR, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent nous permettre de sortir de ces anciens schémas réactionnels, de ces anciennes voies neuronales de réaction, de réponse à des stimuli, pour aller en reprogrammer des nouveaux qui correspondent à l'homme et à la femme qu'on a envie d'être à l'âge adulte. Donc, alléluia. Par contre, ça demande de se retrousser les manches, ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, ça prend des années, hein. Faut pas se leurrer, voilà, c'est pas comme dans les films, hein. C'est pas, voilà, ça commence mal au début du film et une heure et demie après la personne elle est changée, voilà, ça prend des années de vie, hein. C'est vraiment un travail de longue haleine, mais bon, après derrière toutes les années de vie qui restent à vivre derrière, avec sérénité et apaisé, ça vaut vraiment le coup, voilà. Alors on va se quitter, non pas... Donc déjà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On s'arrête donc effectivement là. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. On se retrouve pour la dernière émission de l'année la semaine prochaine. Donc vous êtes welcome, hein, bienvenue. Si vous voulez témoigner, si vous voulez parler de vous, parler de des relations amoureuses en général, des relations hommes-femmes, ou des relations hommes-hommes-femmes-femmes, enfin voilà, des relations amoureuses, venez m'en parler d'abord donc au 06 15 94 36 51. On échange ensemble, ou vous pouvez aller sur le News FM Couple, c'est le Facebook de l'émission News FM Couple, vous me laissez un message. Vous retrouvez bien sûr toutes les émissions en podcast, donc celle-ci vous la retrouverez en podcast très prochainement. Il y a eu effectivement une émission il y a 2 semaines de ça sur l'attachement, sur la difficulté à se séparer. Enfin, c'était des témoignages aussi, donc en lien avec les difficultés d'attachement, les difficultés de séparation. Ce qu'on a vu qui touchait les personnes, Jean-Pierre Vidal et sa compagne, au début de l'émission. Voilà. Donc on a déjà abordé ces sujets-là, des difficultés relationnelles et amoureuses en lien avec l'attachement, la séparation, la peur de l'abandon, etc., etc. Donc tout ça, c'est des podcasts précédents, vous pouvez les retrouver sur News FM. Voilà, on se quitte avec un deuxième grand nom de la musique française. Après Charles Aznavour, on se quitte avec Édith Piaf et une chanson qui s'appelle « Mon Dieu ». Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.